Sondelille. Le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière propose, chaque année, plusieurs expositions. Désormais, elle s'expose aussi sur les ondes de votre radio, avec un programme en trois temps, intitulé « Sondelille ». Le mix musical, les capsules sonores et la sélection de livres de l'artiste à découvrir à la librairie du Centre d'art.
Et tout de suite, la sélection de livres. Gaëlle, la libraire du Centre d'art, bonjour.
Bonjour Maxime.
Tu es venue avec un livre pour faire écho à l'exposition de Tiphaine Calmette par le chant grondant des vibrations autour. Quel est donc ce livre ?
Oui, c'est une sélection de Tiphaine Calmette. Le livre s'appelle « Le tombeau des ancêtres ». Le tombeau des ancêtres de Marcel Delpastre aux éditions Dao Chamin de Saint-Germain. J'espère que je le dis bien, c'est de l'occitan. Aux éditions Dao Chamin de Saint-Germain.
Je ne vais pas te contredire, surtout que je ne l'ai pas sous les yeux de l'autre côté.
Oui. Donc, en fait, déjà peut-être une petite présentation de Marcel Delpastre.
C'est un bon début pour attaquer cette présentation. Allons-y, on t'écoute, Gaëlle.
Donc, Marcel Delpastre est né le 2 septembre 1925 à Germont, sur la commune de Chamberay, en Corrèze. Et elle est aujourd'hui morte. C'est une poétesse, ou une poète limousine, de langue occitane et française. Donc en fait, dans ce livre, Marcel Delpastre va nous parler des traditions de la civilisation occitane, des traditions qui se perdent très vite. Donc je voulais vous proposer de vous lire un petit peu l'introduction qui nous donnera un peu une idée du livre.
On t'écoute.
La civilisation occitane est proprement limousine, meurt tout doucement, inconsciemment, résorbée dans le mouvement général d'un monde à la perpétuelle recherche de cette illusoire perfection qui est peut-être son but et sûrement l'une de ses meilleures raisons d'être. Je ne désire point verser d'inutiles larmes sur cette révolution, ni même en rechercher les modalités ou les causes, historiques ou psychologiques. Je ne vais pas non plus, après tant d'autres, plus qualifiés que moi, énumérer une longue liste de pratiques, coutumes et croyances qui seraient une somme de témoignages. Les faits que je voudrais étudier d'une manière moins étendue et que je souhaiterais plus profonde ne sont pas les résultats d'une enquête générale et ne tiennent dans aucun fichier. On a pu les observer, et souvent ils vivent encore sur un point extrêmement étroit du Limousin, à savoir mon village, Germont, en cet endroit où la commune de Chamberay touche de très très près à la Haute-Vienne, d'où l'on voit le soleil se lever au plus haut sur le mont C, au plus bas sur les Monédières, et terminer sa course au mont Gargan, dans le temps du solstice de juin. Un village qui, comme tant d'autres, meurt étouffé par les ronciers et la forêt jeune montant à la place des champs. Je peux même dire que je ne rapporte presque aucun élément qui ne m'ait été fourni dans ma propre famille et qui ne soit pour moi d'expérience vécue, soit que je l'ai pratiqué moi-même, que je l'ai vu faire ou qu'on ne me l'ait directement rapporté. De cette façon, je pense en avoir une connaissance mentale authentique, véritablement personnelle et vivante, ce qui peut compenser toutes sortes de lacunes dans l'information. Mais encore, cette information m'a-t-elle paru fort abondante, tant dans les nuances de son particularisme local, que dans les constances générales par lesquelles elle s'insère si parfaitement dans le folklore limousin qu'elle pourrait en être le prototype. Mon ambition n'est pas tant d'en donner un tableau complet, encore que je l'ai voulu, que de rechercher le sens ésotérique, mais surtout psychologique de ces traditions, avancer quelques hypothèses, d'ailleurs tout à fait classiques, sur la probabilité de leurs origines, leur nécessité, leur évolution, leur adaptation plus ou moins correspondante, selon les époques et les lieux, le miracle de leur survie. Voilà ce que je me propose, c'est un essai qui, à ma connaissance, n'a jamais été réalisé, et ne serait-ce que pour inciter à de plus minutieuses recherches Je crois qu'il vaut la peine de le tenter. Eh bien, elle écrit bien.
Pourquoi nous amènes-tu ce livre? Quel est l'écho qu'il fait à l'exposition?
Alors, je pense que pour réaliser son exposition, Tiphaine Calmette s'est intéressée de près aux rituels et justement aux traditions limousines. Et donc, notamment dans l'exposition, là, il y a un passage en livre en fait qui traite du repas, du temps du repas. Mmh. Et donc, dans l'exposition, il y a un espace plus particulier autour du repas où Tiphaine Calmette a réalisé des tables expérimentales avec des cuissons de terre, de céramique. En fait, ça fait comme des écorces un petit peu. C'est très organique, c'est des tables très organiques. Il y a également des poteries et des poteries en forme d'animaux. Donc elle a choisi des animaux en voie de disparition. Et donc c'est un espace donc, qui se trouve dans la salle des études dans le centre d'art. Et c'est un espace qui s'active, en fait, où Tiphaine Calmette propose des performances autour du temps du repas, de la nourriture. Et donc, voilà, pour l'instant, ça n'a pas pu avoir lieu. Je ne sais pas si ça pourra se faire.
Tu vas nous lire l'extrait dont tu nous parlais ?
Oui. Du coup, le repas. Il ne faut pas croire, malgré l'importance du bouillon gras, que la sopa d'Omala constitua tout le repas du carnaval. Bien loin de là, dès le matin, le four chauffé cuisait le pain, les rôtis et les pâtés. La poêle à crêpes et la poêle à friture montaient et remontaient sur le feu. Ce n'est pas en vain que l'on dit être aussi pressé que la poêle de carnaval. Le symbolisme de la crêpe commune chez nous, la crêpe de sarrasin, que ce soit la crêpe, le galetou, la pompa, le galeton, le torton, la crespa, selon les régions avec toutes sortes de variantes locales, autant pour la fabrication que pour le nom, n'est pas vraiment différent de celui de la tourte, de la galette des rois, des pâtés, quels qu'ils soient, ou de la crêpe de la chandelaire, dont je n'ai point parlé, parce que je n'en ai jamais eu connaissance, ni chez moi, ni chez mes voisins dans ma petite enfance. De toute façon, c'est principalement de la farine plus ou moins diluée dans l'eau avec le lait, le sel, le beurre, parfois même les œufs. Quelques mets, chaque mets apporte son originalité, qui s'impose et qu'il convient d'interpréter, qui nuance à chaque fois, sans jamais la modifier profondément, la signification essentielle du repas ni de la nourriture. Nous avions à la maison une excellente recette de crespas de blatt nègre pour laquelle il fallait, disait-on, la stress farinas, les trois farines, celle de froment qui manquait quelquefois, celle de seigle et celle indispensable de blé noir, dans l'eau tiède déjà mélangée au levain, au lait, au sel, aux pommes de terre finement écrasées. On jetait alternativement par poignée chacune des trois farines, en battant vigoureusement pour obtenir une pâte liquide homogène et sans grumeaux, à laquelle on incorporait pour finir quelques œufs entiers. Après 5 ou 6 heures de repos, le mélange monte et commence à mousser. C'est alors qu'on apprête un feu de bois sec à la flamme vive et légère. La grande poêle plate est mise à chauffer sur le trépied. On y répand, du bout d'un petit pinceau de chiffon, quelques gouttes de jaune d'œuf battu dans l'eau, l'eau viradis, que l'on essuie vivement avec un morceau de lard ou une couenne mouillée de beurre, l'eau frottant. La pâte, puisée avec une petite louche, est versée sur la poêle, pas tout à fait au centre. D'un mouvement tournant, tenant à deux mains la coa d'au poêlon, la queue du poêlon, la ménagère répand cette pâte en minces couches égales sur toute la surface où elle crisse à petit bruit. Cette pâte bien étalée, la crêpe une fois cuite, doit former la rose, far la rosa, présenter l'aspect d'une rose de dentelle. C'est un tour de main assez délicat. Lorsque la crêpe est cuite d'un côté, que les bords desséchés commencent à se détacher, on la retourne en passant dessous la palette spéciale, qui est une mince lame de bois ou de fer, un peu plus large que la main d'un geste vif. Au bout d'un instant, elle est cuite, on la jette d'un revers de la poêle sur un linge propre. Autrefois, il existait à cet effet un large plateau en vannerie de paille cousue de ronces, la palissa. À mesure qu'elles tiédissent, les crêpes sont retournées afin qu'elles ne collent pas, puis empilées dès qu'elles sont froides. Encore au début du siècle, dans chaque maison, on faisait des crêpes. Chaque matin, puis de moins en moins régulièrement entre les deux guerres, puis exceptionnellement. Aujourd'hui, peu de gens savent encore les faire. Et le voudrait-on ? Où trouver la farine de blé noir, la poêle, le feu, la patience et même le levain, ce levain que l'on conservait un jour sur l'autre, à longueur d'année, au fond du petit seau de bois à couvercle où l'on faisait la pâte, l'eau salon.
L'eau blé noir, des galettes de blé noir, on en a dans le coin.
Exactement.
Fabriquées et avec ce nom, justement.
D'accord. Aussi, je pense que ça intéresse Stéphane Calmette parce que elle s'intéresse aux savoir-faire artisanaux, en fait, et notamment la terre, mais là, bon, c'est plutôt la cuisine, la céramique. Voilà. Voilà, c'était donc la sélection du jour, le tombeau des ancêtres de Marcel Delpastre. Donc, vous pouvez le retrouver à la librairie du Centre d'Art. Il est au prix de 32 euros.
C'est un livre épais, comme la pâte.
Qui fait son poids.
Merci Gaëlle.
Merci Maxime, à bientôt.
À bientôt.